Pendant la pandémie de Covid-19, Michel Bédard a transporté plus de 300 victimes, principalement des personnes décédées des effets du virus. L'homme a aussi été au plus près des victimes collatérales de la pandémie. Michel Bédard a décidé d'écrire tout ce qu'il a vécu. Il est auteur du livre intitulé « On nous a laissé mourir dans les couloirs ». Monsieur Bédard, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, vous partez de loin parce que, en tant qu'enfant, vous aviez peur de la mort.
Oui, absolument. Ça a été mes années d'enfance ont été assez. Au sujet de la mort, j'avais la frousse, absolument la frousse, à chaque fois que j'étais confronté à une situation où une personne était décédée.
Mmh.
Et puis. Il y avait cette frousse-là, cette peur-là, mais il y avait aussi une volonté de chercher, d'aller, une curiosité d'aller voir qu'est-ce qu'il y avait plus loin. Et ça m'a toujours, suivi.
Oui.
Comment dire? Ça a été long avant que je puisse apprivoiser cet aspect-là de moi-même.
Mm-hmm.
Mais les événements dans ma vie ont fait en sorte que j'ai travaillé de près.
Oui, c'est ça.
Avec des défunts.
C'est ça, vous l'avez côtoyé, vous êtes croque-mort. Et ce métier-là, je le mets au passé, je trouve ça très déplorable, mais on va revenir qu'on le mette au passé. Vous l'avez côtoyé, vous êtes allé voir ces gens, vous les avez vus de près, vous êtes allé les chercher et vous avez été présent pendant la première vague et la seconde vague de la pandémie. Comment s'est passé vos journées? Comment ça a été dans votre vie, dans votre travail? Comment ça s'est passé?
Ben, ça a été un cheminement qui a duré plusieurs années. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles j'ai écrit le livre.
Oui.
C'est que je voulais montrer que j'avais comme été formé depuis plusieurs années pour en arriver à cet événement-là qu'on appelle la pandémie COVID-19.
Mm-hmm.
J'ai commencé à faire du transport funéraire en 2019. Et puis, là, est arrivé au mois de mars 2020, ben, la première vague de la pandémie.
Oui.
Les premières semaines de pandémie ont été absolument épouvantables. Tout le monde a été pris au dépourvu là-dedans, y compris tous les services de transport funéraire, les services funéraires en général. On s'est retrouvé avec une quantité de défunts à transporter qui était là, absolument là, au-dessus de nos capacités à ce moment-là.
Mm-hmm.
Moi, je me rappelle des premières... Les premières journées, là, quand ça a vraiment commencé, quand les gens ont vraiment commencé à mourir, me rendre dans les CHSLD ou les RPA, puis voir le personnel partir, là, déserter. On s'en va.
Parce qu'il y a trop de morts autour, c'est ça? Les gens partaient parce qu'il y avait trop de morts autour. C'est ça, c'était ça l'ambiance?
Les gens étaient paniqués. Les employés de ces centres-là étaient en panique. Alors, ils désertaient, puis en sortant, ils nous le disaient à nous, qui arrivions pour prendre des gens en charge, « Entrez pas là, allez-y pas, vous allez mourir. Entrez pas là. » Ah oui, c'était là, c'était à ce point-là. Moi, je me rappelle à l'époque, j'ai même eu la frousse. J'ai dit « Coudonc, qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui arrive? Est-ce qu'on va tous mourir de ce virus-là? » On était en face d'un événement qui était absolument là, inédit. C'était la première fois que ça se produisait. On n'avait pas l'équipement non plus à ce moment-là. Dans les premiers jours, on n'était pas protégé, pas du tout. On avait nos équipements là, de travail réguliers, là, masques et gants. Mais on n'avait pas de protection particulière à l'épreuve d'un virus. Ça a pris plusieurs jours avant qu'on puisse avoir l'équipement là, disponible pour le travail.
Alors, comment on se sent après une journée? Parce que vous en avez eu beaucoup. Je pense que c'est plus que 300, 321, je pense, personnes.
Exactement, oui.
que vous êtes allé chercher, comment on se sent, comment on va chercher sa force intérieure, parce que là, vous côtoyez, vous les prenez même, hein, vous les transportez physiquement, ces morts-là, comment vous vous sentez?
Vous voyez, c'est un sentiment qui est particulier. C'est comme quand tu vas chercher un défunt, tu entres en relation avec cette personne-là, même si elle est décédée. Là. Mm-hmm. Je veux dire, ça reste une personne humaine. Ça reste un homme, une femme qui a une histoire, qui a une famille, des enfants, qui a eu une vie. Alors, nous, on rentre là et puis on entre en relation avec cette personne-là. Moi, ce que j'avais là, en avant de moi, là, couché dans un lit, là, c'était pas un cadavre. Mm. C'était Paul, c'était Henri, c'était c'est Jeannette. C'était des personnes humaines.
Dans votre livre, vous leur parlez, vous leur donnez un nom, enfin leur nom proprement dit, et vous tenez à parler avec eux.
Pour moi, c'était important de ne jamais oublier l'aspect humain, même dans la mort, et surtout dans la mort. Mm. Une des étapes les plus importantes de la vie, c'est de mourir. Oui. Et puis, pendant la COVID, il y a eu des centaines, des milliers de gens qui ont connu une mauvaise mort.
Qu'est-ce que c'est qu'une mauvaise mort?
Une mauvaise mort, c'est une mort comme des milliers de gens en ont eu pendant la COVID, c'est-à-dire mourir seul, mourir dans la peur, dans la détresse, dans la souffrance, et coucher dans un lit, coucher souvent dans des excréments, en mourant étouffé, parce que la plupart sont morts comme ça, ils sont morts étouffés, déshydratés, ils n'avaient pas été nourris, puis ça se voyait dans l'empreinte de cette souffrance-là, on la voyait dans leur corps. Moi, j'ai vu des larmes sécher sur les joues des gens. J'ai vu des orteils et des jambes recroquevillées en position fœtale à cause de la souffrance et à cause de la détresse que ces gens ont vécu là à l'heure de leur mort. Alors, c'est ça que j'appelle une mauvaise mort. Oui. Parce qu'il y a aussi, il y a des gens qui connaissent des bonnes morts. Oui. Et puis ça, j'en ai vu. Et puis ça paraît dans le visage de ces gens-là.
Ça paraît dans le corps des gens. Le corps est plus reposé quand ils ont des blessures.
C'est surtout dans leur visage où tu peux voir une forme de sérénité. Oui. J'ai vu ça souvent dans des centres de soins palliatifs. Mourir dans un centre de soins palliatifs, c'est une bénédiction à mon avis.
Alors, Michel Bédard, vous côtoyez ces gens-là de près, vous leur faites du bien parce que à la fin, vous les appelez par leur nom, vous leur parlez. Et on a suivi sur Twitter vos textes, ce que vous disiez. On voyait qu'il y avait une différence entre le gouvernement et ce qui se passait réellement. Et le fait d'avoir dit les choses, d'avoir écrit les choses, ça fait en sorte que vous avez perdu votre travail, et c'est complètement lamentable ça, ce qui s'est passé, parce que vous étiez aux premières loges, vous étiez au quotidien de ramasser ces personnes-là qui mouraient et ça n'arrêtait pas, et là on vous dit non, mais c'est terminé, vous pouvez plus travailler.
Oui, absolument. D'ailleurs, c'est ce qui a suscité mon intérêt pour en parler publiquement.
Mais bien sûr, bien sûr.
Parce que ce que j'entendais dans les médias, ce que j'entendais du gouvernement, ça ne correspondait pas à ce que je vivais sur le terrain. Alors, à ce moment-là, j'ai décidé de... J'ai pas voulu argumenter. Je voulais pas argumenter avec les données du gouvernement ou avec les déclarations des politiciens. Alors, j'ai décidé de tout simplement raconter qu'est-ce que moi, je constatais sur le terrain, qu'est-ce que moi, je voyais de mes yeux. Mm-hmm. Alors, ça a commencé comme ça. Je donnais à chaque jour un bilan du nombre de personnes que j'avais transportées avec l'âge.
Okay.
Et c'est comme ça que ça a commencé. Et puis, évidemment, ben là, les gens qui ont commencé à me suivre sur Twitter ont réalisé qu'effectivement, ce que moi, je rapportais, c'était différent de ce que les médias rapportaient, de ce que les gouvernements déclaraient.
Alors, un sonneur d'alerte extrêmement important, tout à fait déplorable que quelqu'un qui dit la vérité, qui vit la vérité, on lui monte la porte. J'aimerais parler, bon, les premières lignes de votre livre, vous parlez de ce suicide de cette jeune fille, mais j'aimerais parler du suicide au niveau de la COVID. On n'en a pas parlé. On a parlé que les gens étaient morts, bon, du virus, mais il y a des gens, et vous avez côtoyé, il y a eu beaucoup de gens qui se sont suicidés.
Oui, surtout au courant de la deuxième vague. C'est là que ça a commencé à ressortir. Ça faisait déjà là, quelques mois que le confinement était installé. Et puis, est arrivé le couvre-feu. Et puis, à ce moment-là, il y a été une période où je transportais, il y avait des journées où je transportais plus de victimes de suicide que de victimes de la COVID. Et puis ça entrait en conflit direct avec les statistiques du bureau du coroner qui, eux, affirmaient et affirment toujours encore aujourd'hui que la moyenne de suicide au Québec, c'est 3 par jour à la grandeur de la province. Alors qu'à cette époque-là, c'est arrivé à plusieurs reprises que j'ai transporté plus que 3 victimes de suicide dans une même journée et seulement pour la grande région de Montréal.
OK.
Alors, ça ne fonctionnait pas, mais le bureau du coroner s'en tenait à ses statistiques. Et puis, finalement, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis de la pression sur mon employeur pour qu'il me laisse aller. Puis, c'est exactement ça qui est arrivé.
Un lanceur d'alerte comme vous, vous devriez retrouver votre travail et vous êtes un homme extraordinaire. J'aimerais, en terminant, savoir comment vous vous sentez, parce que côtoyer la mort comme ça, et puis après ce qui vous est arrivé, comment vous êtes aujourd'hui, Michel Bédard?
Moi, je suis serein là-dedans. Je suis en paix avec moi-même parce que j'ai l'intime conviction que j'ai fait tout ce que je pouvais pour ces gens-là.
Oui.
OK? Le dernier acte de la vie de ces gens-là, là, je l'ai fait pour eux, c'est-à-dire en prendre soin, les prendre dans mes bras, puis les amener jusqu'à leur dernier repos.
Mm-hmm.
Alors, pour moi, là, le travail, je l'ai accompli. Pour le reste, si j'ai pris la parole, c'est pour eux. Puis pour essayer d'éviter que ces événements-là se reproduisent, pour essayer d'améliorer les soins dans les CHSLD, dans les RPA, dans les hôpitaux aussi, pour essayer de. Pour plus que ça arrive, ces choses-là, de maltraiter des gens comme ça, puis de les abandonner jusqu'à la mort, il faut que ça arrête. Ça ne peut pas continuer comme ça.
Voilà.
Alors, c'est pour ça, c'est ce qui m'a motivé à écrire puis à parler.
On va vous lire, donc, Michel Bédard, ça vient tout juste de sortir. Un grand merci pour cet entretien et bonne chance pour la suite des choses. Et puis, merci pour tout ce que vous avez fait pour ces personnes.
Je vous en prie, madame, ce fut un plaisir de vous parler.